Voilà, donc bonjour à tous, frères et sœurs. Je continue la série donc du livre, de parcourir le livre de 1 roi. Et la fois dernière, on s'en était arrêté dans le chapitre 12. On avait vu comment le roi, le nouveau roi Jéroboam, donc des 10 tribus du nord, avait instauré sa nouvelle religion de sa propre initiative et faisant concurrence au culte du vrai Dieu dans le royaume du sud, à Jérusalem, en Juda. Pour resituer le contexte, donc un roi, je vous rappelle ce qu'on a vu, un roi 12 la fois dernière, et aujourd'hui ça sera un roi 13. Dans le royaume du sud, donc, eh bien, Jéroboam, il a créé 2 veaux d'or, un à Dan et un à Bethel, entraînant non seulement lui-même, mais tous les 10 tribus du Nord dans l'idolâtrie. C'était un péché très grave. L'idolâtrie, c'est prendre quelqu'un d'autre que Dieu pour son Dieu. Et c'était d'autant plus grave que Jéroboam avait fait chuter le peuple d'Israël, avait été une pierre d'achoppement. Alors, notre récit, donc le chapitre 13, commence alors que Jéroboam, eh bien, il a usurpé le rôle de prêtre. Il n'est pas de la tribu de Lévi, mais il a pris lui-même le rôle de prêtre, et il est en train de, eh bien, lors d'une fête religieuse qu'il a encore lui-même instituée, il est en train d'offrir des parfums. Et donc notre récit commence alors qu'il est en train de brûler des parfums. Voici que quelqu'un vient troubler la fête. C'est donc 1 roi chapitre 13, là où je reprends. Et je vais lire. Je lirai en plusieurs fois parce que c'est un texte assez long et je reprendrai au fur et à mesure. Donc déjà jusqu'au verset 9, 1 roi 13, 1 verset 9. Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, d'après la parole de l'Éternel, et dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. » Il sacrifiera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on consumera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe du fait que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il brandit la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait brandie contre lui se trouva paralysé, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu, d'après la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison pour te restaurer, et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Alors là, vous ne serez pas étonné, c'est donc un texte de jugement, d'annonce de jugement, qui va aussi apparaître dans la suite. Et la vérité centrale qu'il ressort de ce que j'ai trouvé dans ce message, c'est que les jugements proclamés par la parole de Dieu s'accomplissent malgré les efforts de l'homme pour la mettre en échec. Les jugements proclamés par la parole de Dieu s'accomplissent malgré les tentatives de l'homme de la mettre en échec. J'ai articulé ainsi mon message. Le premier point, c'est que eh bien, nous verrons le jugement qui est annoncé contre l'idolâtrie. Jugement annoncé contre l'idolâtrie. Deuxième point, j'aborderai le jugement qui est annoncé contre, on n'a pas encore lu le passage, mais ça va suivre, le jugement annoncé contre un homme de Dieu qui a désobéi. Troisièmement, nous verrons le seul moyen d'échapper au jugement. Le seul moyen d'échapper au jugement. Et quatrièmement, nous verrons le jugement annoncé contre tous ceux qui refuse ce moyen, ce seul moyen d'échapper au jugement. Donc, annonce de jugement dans ce passage, ne soyez pas étonnés. Et le premier, eh bien, le jugement annoncé contre l'idolâtrie. Voici donc Jéroboam qui est en train de faire son culte. Il offre des parfums dans l'autel qu'il a lui-même institué à Bethel. Et quelqu'un vient troubler la cérémonie. Il s'agit d'un homme de Dieu, nous dit le texte. Un homme de Dieu. Un homme envoyé par Dieu. Donc un prophète. Un prophète qui parle de... Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un vrai prophète, je précise. Un prophète envoyé donc de Juda, où est Jérusalem, vers Bethel, dans le royaume du Nord. Un prophète envoyé de Juda vers Bethel, je précise, d'après la parole de l'Éternel. Vous avez remarqué cette expression « d'après la parole de l'Éternel » qui revient souvent, verset 1, verset 2. Cette parole pour annoncer quoi ? Pour annoncer un jugement. L'homme de Dieu crie contre l'autel d'après la parole de l'Éternel, verset 2. Et annonce, il annonce une prophétie 300 ans à l'avance. C'est celle-ci, un roi venant de Juda qui s'appelle Josias brûlerait les prêtres eux-mêmes, les prêtres idolâtres sur l'autel. Et effectivement, cette parole annoncée par l'homme de Dieu, elle s'accomplira 300 ans après, il y aura le roi. Il est déjà nommé ici, mais il apparaîtra que 300 ans après, c'est déjà Josias. Parfois, ça prend du temps, mais la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Et je vais lire donc en 2 Rois, chapitre 23, verset 15, là où intervient ce jugement, donc qui est 300 ans plus tard, voici ce qui est dit, qui accomplit la prophétie faite par l'homme de Dieu. 2 Rois, je vais vous le lire, vous pouvez prendre juste la référence. 2 Rois, 23, 15 et 16. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Donc un texte plus tard, qui fait écho au texte d'aujourd'hui, avec l'accomplissement donc, de la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Alors, en attendant l'accomplissement de ce jugement, l'homme de Dieu annonce un signe comme quoi, pour certifier que ça va arriver, il annonce un signe comme quoi l'autel se fendra et la cendre se répandra. Et en attendant cela, Jéroboam, qu'est-ce qu'il fait ? Il ordonne qu'on saisisse l'homme de Dieu. Mais sa menace n'aura pas d'effet. Parce que la main de Jéroboam se paralyse aussitôt après sa menace. Et l'autel se fend et la cendre se répand selon ce que l'homme de Dieu avait annoncé, ce qui est le signe de la malédiction de Dieu sur la religion de Jéroboam, le roi idolâtre. La parole de Dieu, elle est proclamée et elle s'accomplira certainement. Elle a déjà commencé à s'accomplir. Mais, dans ce passage, on va essayer de trouver où est la grâce de Dieu dans ce passage. Elle est là. Dieu est patient et il offre encore sa grâce. Et nous pouvons constater sa grâce déjà dans ce passage à trois reprises jusqu'ici. Premièrement, l'homme de Dieu, il crie pas contre Jéroboam, il crie contre quoi ? Contre un objet, contre l'autel où on offre les sacrifices. Il s'adresse à un objet, pas à la personne. Il s'adresse à l'autel qui représente la fausse religion, qui représente l'idolâtrie. Il ne s'adresse pas directement à Jéroboam, ce qu'il laisse à Jéroboam, ce qu'il lui laisserait entrevoir, qu'il peut encore revenir, qu'il peut encore se repentir. Ça, c'est le premier effet de la grâce. Jugement annoncé à l'objet, à l'autel. Deuxième effet de la grâce divine, eh bien, Jéroboam a retrouvé l'usage de sa main lorsque l'homme de Dieu a prié à sa demande dans ce sens. Alors même que Jéroboam appelle Dieu, il appelle Dieu l'Éternel ton Dieu. Sous-entendu, c'est pas son Dieu à Jéroboam, c'est le Dieu de l'homme de Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Et Dieu répond à sa prière. Deuxième signe, deuxième marque de la grâce de Dieu. Et ici, on peut déjà en tirer un enseignement pour nos vies. C'est que Dieu nous bénit toujours d'abord à cause de ce qu'il est et non pas à cause de ce que nous faisons. Nous n'avons aucun mérite. Dieu nous bénit d'abord à cause de ce qu'il est. Jéroboam l'a clairement. Il était idolâtre. Et il a retrouvé l'usage de sa main parce que quelqu'un a prié pour lui, l'homme de Dieu. Il y a aussi une application pour nous. Ici, l'église évangélique de Figeac. Est-ce que nous prions pour ceux qui ne confessent pas la même foi que nous, qui sont différents de nous? Est-ce que nous prions pour les catholiques? Est-ce que nous prions pour les musulmans? Est-ce que nous prions pour les juifs? Est-ce que nous croyons qu'un juif peut se convertir? Ou un musulman? Ou un catholique? Est-ce que nous prions pour les bouddhistes? L'homme de Dieu l'a fait. Il l'a fait pour un roi idolâtre. Et de l'idolâtrie, il y en a dans ces religions. Il y en a aussi dans l'Église catholique. Il n'y a qu'à voir les statues. En cela, nous pouvons prier pour eux, imitant l'homme de Dieu. Alors peut-être vous dites, mais c'est l'homme de Dieu qui a prié pour eux. Oui. Et nous sommes aussi, nous, l'Église de Jésus-Christ, des hommes et des femmes de Dieu. Et je vais y revenir. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Nous tous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur. Nous sommes son Église. Je vais y revenir. Et on peut encore y voir un troisième effet de la grâce divine dans ce passage. C'est que le jugement, eh bien, il est proclamé. La proclamation même du jugement. Pourquoi ? Parce que Dieu annonce toujours à l'avance ses jugements à son peuple. Alors qu'il pourrait très bien envoyer ses jugements sans préavis. Mais il n'y aurait plus personne sur terre. Il pourrait le faire. Mais Dieu prévient pour que les gens puissent venir, revenir à lui. Dieu annonce toujours à l'avance ses jugements à son peuple. Alors, est-ce que, après ces marques de la grâce de Dieu, est-ce que ça va changer Jéroboam? Est-ce que ça va suffire à le faire revenir? Est-ce que Jéroboam reviendra de ses mauvaises voies après cette triple grâce divine? Avant de répondre à cette question, c'est la suite du texte qui va y répondre. C'est surprenant parce que toujours est-il que là, Jéroboam, une fois guéri, il est passé de la menace à la gentillesse. Il veut gagner l'amitié de l'homme de Dieu. Comment? En invitant à manger dans sa maison avec en prime un cadeau, verset 7. Est-ce qu'il était sincère? Eh bien non. La suite du texte montrera que son cœur n'a pas changé. Et là, après avoir utilisé la menace, il utilise une forme de gentillesse. Pourquoi? Son but, c'est quoi? Mais c'est de faire taire l'homme de Dieu. D'abord par la force, et ensuite, comme il n'a pas réussi, en essayant de l'avoir, de le gagner, par l'amitié, par la gentillesse. Mais son but n'a pas changé. Il veut le faire taire, parce que lui n'a pas changé. Alors, comment est-ce que l'homme de Dieu répond à cette invitation? L'homme de Dieu, il a reçu de Dieu des instructions très précises, très strictes même. Celle de ne recevoir ni pain, ni eau de la part de quelqu'un d'autre, de quelqu'un. Et aussi, il devait, pour rentrer chez lui de Bethel en Juda, il ne devait pas rentrer par le même chemin. Il devait emprunter un autre chemin. Et je vais y revenir. Instruction très claire et très stricte, donc, donnée à l'homme de Dieu, de ne pas boire d'eau ni de pain sur le chemin du retour et de ne pas prendre le même chemin qu'à l'aller. Alors l'homme de Dieu, eh bien, il ne se laisse pas corrompre face aux intentions de Jéroboam. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, et c'est riche d'enseignements pour nous, il lui répète la parole de Dieu qu'il a reçue. Verset 9, « Cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et là, l'homme de Dieu, il a réussi le test. Parce qu'il s'agit d'une épreuve, là. Il a réussi le test. Et ce test-là, cette épreuve, elle n'est pas sans rappeler la tentation de Jésus dans le désert. Vous vous rappelez, c'est en Matthieu chapitre 4. La tentation, lorsque le diable a tenté Jésus à plusieurs reprises dans le désert, pour le gagner à sa cause. Mais Jésus, et nous pouvons vraiment nous inspirer de lui, eh bien, il n'est pas tombé dans les pièges. Comment est-ce que Jésus s'est défendu et a évité le piège de la tentation du diable? Jésus n'a pas discuté avec le diable. Comment a-t-il répondu au diable? Il a répondu en citant la parole de Dieu. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et voilà notre âme, voilà comment nous devons, nous pouvons faire quand la tentation se présente. Plus nous contacterons cette parole de Dieu, plus nous pourrons répondre aux attaques du diable en disant « Il est écrit ». Parce que le diable a fini par fuir en entendant Jésus citer la parole de Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Bonne raison de lire sa Bible et de la connaître. Il est écrit. Nous aussi ne cherchons pas à rajouter ou à retrancher quelque chose à la parole de Dieu lorsque nous sommes tentés, ou alors lorsque nous voulons faire passer des idées qui sont plus à la mode aujourd'hui, qui sont plus conformes à l'air du temps. On veut chercher à gagner les gens, mais attention à ne pas diluer la parole de Dieu. Mais tenons-nous-en à la parole de Dieu. Il est écrit. N'en rajoutons pas. N'en supprimons pas. Malheureusement, eh bien, un deuxième test va se présenter à l'homme de Dieu. Et là, il va échouer. Il a réussi le premier. Deuxième, il va échouer. Continuons notre lecture, donc, au verset 10 du chapitre 13. Verset 10. Il, donc l'homme de Dieu, s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accomplies à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsque les fils eurent fait ce récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne !» Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il suivit l'homme de Dieu et le trouva assis sous le térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit « C'est moi. » Alors il lui dit « Viens avec moi à la maison pour y manger. » Mais il répondit « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel « Tu ne mangeras pas de pain » et tu n'y boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Il lui dit alors, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Verset 19, « L'homme de Dieu retourna avec lui, et mangea du pain dans sa maison, et but de l'eau. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète, donc le vieux prophète, au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tente de tes pères. » Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour le prophète qu'il avait ramené. Celui-ci s'en alla. Donc l'homme de Dieu s'en alla. Un lion l'attrapa en chemin et le tua. Son cadavre fut jeté sur le chemin, l'âne se tenant à côté de lui. Le lion se tenait aussi à côté du cadavre. Voici que des passants virent le cadavre jeté sur le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Le prophète qui l'avait ramené du chemin l'apprit et dit « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. » Puis s'adressant à ses fils, il dit « Scellez-moi l'âne » et ils le scellèrent. Il partit et trouva le cadavre jeté sur le chemin, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur l'âne et le ramena. Le vieux prophète rentra dans la ville pour prendre le deuil et pour l'ensevelir. Il mit son cadavre dans la tombe et l'on fit cette lamentation sur lui. « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enseveli, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'ensevelirez dans la tombe où est enseveli l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. » Car c'est sûr, elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu pour le moment, c'est pas terminé. Mon deuxième point, eh bien là, il s'agit encore d'une annonce de jugement. Cette fois, contre qui ? Contre un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a désobéi. Voilà donc qu'un vieux prophète qui habitait à Bethel vient à la rencontre de l'homme de Dieu. Donc on différencie bien les deux. Hein. Il y a le vieux prophète et il y a l'homme de Dieu. Le vieux prophète qui habitait Bethel, donc, là où est l'idolâtrie. Donc le vieux prophète vient à la rencontre de l'homme de Dieu sur le chemin du retour, informé par ses fils de ce qui venait de se passer avec Jéroboam. Et le prophète donc invite l'homme de Dieu à venir se restaurer chez lui, ce à quoi celui-ci répond la même chose qu'au roi, répétant mot pour mot la parole de Dieu, verset 17, qui fait écho au verset 9, en précisant bien que c'est la parole de Dieu. L'homme de Dieu précise bien, c'est la parole de Dieu. Sauf que là, ça se complique. Le vieux prophète lui dit qu'il est prophète lui aussi, comme lui, et qu'un ange lui a dit de la part de l'Éternel qu'il pouvait venir manger du pain et boire de l'eau chez lui. Voilà de quoi troubler l'homme de Dieu. Comment est-ce que vous auriez réagi ? Voilà de quoi troubler l'homme de Dieu. Et effectivement, le vieux prophète lui mentait, verset 18. C'est clairement dit, le vieux prophète mentait à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu l'a cru et il a fini par accepter son invitation. Il était pourtant bien parti, il avait pris un autre chemin. Mais le vieux, selon conformément à la parole de Dieu, mais le vieux prophète l'a retrouvé sur ce chemin. Et là, eh bien, il a mangé et bu. En retournant dans la maison, en allant à la maison de l'homme de Dieu. Et là, que se passe-t-il ? L'homme de Dieu a désobéi à la parole de l'Éternel. Jugement. Jugement annoncé contre l'homme de Dieu, qui avait quand même réussi le premier test. Jugement. Un jugement qui peut, ça va nous surprendre, il va entendre ce jugement de la part du vieux prophète, qui avait menti. Mais Dieu va parler par sa bouche. Cette fois, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il est la vérité. En tout cas, il va parler par la bouche de ce vieux prophète pour annoncer le jugement à l'homme de Dieu, le jugement qu'il attend. Dieu pouvait-il se contredire ? Non, non. Dieu ne se contredit pas. Et c'est bien la parole de Dieu que le vieux prophète va annoncer à l'homme de Dieu, puisque le jugement annoncé, verset 22, que son cadavre n'entrera pas dans la tombe de ses pères, en Juda, donc d'où il vient, eh bien ce jugement s'est accompli. Et là, c'était bien la parole de Dieu. En effet, que s'est-il passé ? Un lion, donc l'homme de Dieu est reparti chez lui, et là, un lion a tué l'homme de Dieu, l'a déchiré, et le vieux prophète donc l'a ramené et l'a enterré où ça ? Là où il vit avec ses fils. La parole de Dieu comme quoi son cadavre n'entrera pas dans le cadavre de ses pères, donc en Juda, c'est accompli. Il a été enterré là où habitait le vieux prophète. La parole de Dieu s'accomplit. Alors évidemment, ce texte-là, il n'est pas facile, mais il nous invite à... Il est là pour nous aider à user de discernement. En tout cas, Dieu ne se contredit pas. Je vais y revenir. Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il dit s'accomplit. Et lorsque le vieux prophète a entendu ce qui est arrivé à l'homme de Dieu, eh bien, il a pris conscience que ce qu'a dit l'homme de Dieu s'accomplira certainement. La prophétie annoncée par l'homme de Dieu s'accomplira sur Bethel, sur l'autel, là où se passe l'idolâtrie. Et que le culte idolâtre prendra fin, même si ça prend des années, et ça a pris des années. Parce que les jugements proclamés par la parole de Dieu s'accomplissent malgré les tentatives de l'homme de la mettre en échec. Alors pour nous, Église, aujourd'hui, il y a plusieurs mises en garde dans ce récit. Ce récit, il est là pour nous. Il n'était pas seulement là pour Israël. Il est là pour nous. La première mise en garde, c'est celle de ne pas se laisser entraîner contre nos convictions. Ce que n'a pas su faire l'homme de Dieu. Il avait bien commencé, il avait réussi le premier test, mais le deuxième, quand la tentation s'est représentée devant lui, il était au clair, il connaissait la parole de Dieu, mais il s'est laissé entraîner contre sa conviction. Et l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 23, nous rappelle l'importance d'avoir des convictions et l'importance de faire par conviction, de ne pas agir dans le doute. Voici ce que dit Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors, ça ne concerne pas seulement le manger. Ça concerne aussi, est-ce que je peux aller à tel endroit? Est-ce que je peux aller dans telle célébration œcuménique ou est-ce que... Il s'agit d'avoir la conviction, si oui ou non, je peux le faire ou pas. Et s'il y a le moindre doute, abstenons-nous. Abstenons-nous. Nous avons des convictions. L'Église. Attention aussi à ne pas pousser d'autres personnes à aller contre leur conscience. Le vieux prophète, il a été une occasion de chute pour l'homme de Dieu. Et pourtant, vous avez remarqué, au verset 30, il appelle son frère. Hélas, mon frère! Là, son frère, il a été déchiqueté par un lion. Il appelle son frère alors que c'est lui qui l'a poussé à désobéir. Et c'était grave. Attention à ne pas être une occasion de chute les uns envers les autres. Et le problème à tous les deux, le prophète et l'homme de Dieu, c'était leur manque de fermeté. Le vieux prophète, il habitait Bethel, et c'est là où Jéroboam a institué le culte du veau d'or. Et le vieux prophète, il adhérait au culte idolâtre à Bethel, probablement par dépit, parce qu'il s'est trouvé là au mauvais moment, au mauvais endroit. Il n'a pas su prendre position clairement. L'homme de Dieu, il a aussi manqué de conviction en la parole de Dieu. Deuxième mise en garde, eh bien, contre les ruses du diable. Le diable, c'est un séducteur et il se déguise. Et il va être encore question de déguisement dans ce récit un peu plus tard. Là, clairement, le diable, eh bien, il se transforme en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13 nous avertit. 2 Corinthiens 11, 13 et 14 nous avertit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Là aussi, nous avons besoin d'user de discernement et ô combien nous avons besoin de nous tenir dans le Seigneur, qui est lumière des vérités pour discerner le vrai du faux. Parce que le diable, tantôt il agit violemment, tantôt il agit par séduction. Et nous avons besoin de prendre toutes les armes de Dieu pour lui résister, à l'exemple de Jésus, en citant la parole de Dieu. Alors comment reconnaître les ruses du diable? Eh bien, déjà vérifions que ce qu'on nous dit vient bien de la parole de Dieu. Encore une fois, de la parole de Dieu. Prenons le temps de vérifier. Puis fions-nous simplement à ce que Dieu dit dans sa parole, sans chercher à la compliquer, sans chercher à en rajouter, sans chercher à en retrancher, et nous serons gardés. Là encore, une exhortation à lire la parole de Dieu, à la connaître, et même à la mémoriser. L'homme de Dieu, est-ce qu'on aurait fait mieux que lui? En tout cas, il a cru que la parole de Dieu était à la fois oui et non. Et c'était ça son problème. Il a cru que la parole de Dieu était à la fois oui et non, mais Dieu ne se contredit pas. C'est pour ça qu'il nous demande d'avoir des convictions. Jésus dit en Matthieu 5, verset 37, dans le sermon sur la montagne, il dit « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Donc, voilà, on n'est pas obligé de se justifier quand on prend une décision, qu'on croit être la bonne décision. Voilà, si on n'est pas convaincu, non. Je ne peux pas me rendre à tel endroit. Ou oui, je viens avec toi. Dieu n'est pas à la fois oui et non. Il est Jésus, il est l'amen de Dieu, il est le oui de Dieu. Alors, en regardant bien ce récit, le jugement de l'homme de Dieu, ça peut quand même nous sembler sévère. D'autant plus que l'homme de Dieu s'est laissé séduire. Et même, le jugement envers l'homme de Dieu peut sembler plus sévère qu'envers Jéroboam, le roi idolâtre. Jéroboam, il a été coupable d'idolâtrie. Et Dieu lui a fait grâce, encore jusqu'à présent. Il a encore du répit pour revenir. Dieu lui a fait grâce. Or, l'homme de Dieu, il avait bien commencé, il avait réussi la première épreuve. Et là, que se passe-t-il? Il désobéit, il est séduit. Le jugement tombe sur lui. Est-ce qu'on aurait fait mieux que lui? Pas facile, hein? Pourtant, ce récit, il est là pour nous aider. Pour nous aider à y voir clair. Déjà, faisons la distinction entre un prophète et un homme de Dieu. Vous avez remarqué, le texte parle bien prophète et homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un prophète. Sauf qu'un prophète, ça peut être un faux prophète. Le faux prophète a menti, hein. Un homme de Dieu, c'est toujours un homme de Dieu. Une femme de Dieu, c'est toujours une femme de Dieu. Alors qu'un prophète peut être un faux prophète. Et nous, l'Église, eh bien, n'en doutons pas. Nous tous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur, qui avons accepté le Fils de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous qui avons reçu son Fils, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Étant les enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc en Jésus, elle, la parole de Dieu, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous sommes enfants de Dieu, pas moins, je ne sais pas si on réalise ça, quand on a accepté Jésus. Alors, c'est pas la parole n'est pas réservée à une élite. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, parce que des enfants de Dieu. Et là, clairement, c'est un homme de Dieu qui s'est laissé séduire. Et ce récit, il est là pour nous mettre en garde, nous aussi, l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 4, verset 17 nous dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ?» Est-ce qu'on aurait mieux fait que l'homme de Dieu? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de mieux faire. C'est possible. Et voyons mon troisième point, le seul moyen d'échapper au jugement. Alors là, dans ce récit, il y a quand même quelque chose de surnaturel qui se passe. Contrairement à toutes les lois de la nature, le lion n'a mangé ni l'homme, ni l'âne. Les deux, le lion et l'âne, se tenaient ensemble à côté du cadavre étendu sur le chemin. Voilà de quoi étonner les passants qui passaient. Preuve que c'est bien Dieu qui a frappé l'homme de Dieu. C'est miraculeux, c'est surnaturel. C'est bien Dieu qui a frappé l'homme de Dieu. Ce n'est pas un accident. L'homme de Dieu a échoué. Mais si l'homme de Dieu a échoué, il y a un autre homme de Dieu qui, lui, a réussi. Un autre homme de Dieu qui est même appelé, qui est un lion, qui est appelé le lion de la tribu de Judas, dans Apocalypse 5, verset 5. Et ce lion, il est arrivé dans Jérusalem monté sur un âne. Triomphalement et humblement monté sur un âne. Matthieu 21, verset 5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Le lion dont il s'agit ici, vous avez bien sûr compris qui c'était. Lui, il n'a tué personne. Mais ce lion-là, il s'est sacrifié pour nous sauver. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. Non seulement l'homme de Dieu, mais l'homme Dieu. L'homme Dieu, fils de Dieu et descendant de David, issu de la tribu de Judas, né d'une vierge. L'homme Dieu qui est mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés et satisfaire ainsi à la justice divine, en mourant sur la croix. Si le cadavre de l'homme de Dieu était étendu sur le chemin, tout le monde pouvait le voir. Et aussi, quand Jésus a été cloué sur une croix, tout le monde pouvait le voir. Il était bien haut sur la croix. Tout le monde pouvait le voir, tout le monde pouvait voir Jésus agoniser sur la croix, c'était pour nous sauver. L'homme de Dieu ne devait pas retourner chez lui par le même chemin, la consigne qu'il avait reçue. Jésus, trois jours après sa mort, est ressuscité et il est retourné chez lui, pas par le même chemin. Il est retourné au ciel auprès de son Père, pas par le même chemin. Pourquoi ? Il n'est pas revenu dans le même état où il est venu, puisqu'il est remonté au ciel dans un corps humain ressuscité. Jésus, en remontant auprès de son Père, il a emmené avec lui notre humanité. notre humanité. Dans sa relation avec son Père, Jésus a emmené avec lui notre humanité, nous ouvrant ainsi une relation au Père, à son Père, avec son Père, ce que Dieu veut, avec chacun d'entre nous, pas moins. Si on réfléchit à ça, c'est infiniment énorme. Dieu nous veut avec lui. Et Jésus a été le premier humain à aller auprès du Père, dans la communion parfaite avec son Père, étant le Fils de Dieu. Alors, l'homme de Dieu ne devait pas retourner auprès du Père par le même chemin. Le chemin pour aller vers Dieu, eh bien, c'est Jésus lui-même, qui, selon sa parole, qui est dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin pour aller au Père, c'est Jésus. L'homme de Dieu ne devait pas boire ni pain ni eau sur le chemin du retour. Autrement dit, pourquoi cet ordre ? Eh bien, il ne devait pas s'attarder sur ce lieu idolâtre. Il fallait qu'il rentre chez lui au plus vite. Et pour nous aussi, ne nous attardons pas là où s'exerce une fausse religion qui est reconnaissable à sa non-soumission à la parole de Dieu. Ne nous y attardons pas, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fréquenter ceux qui ne croient pas la même chose que nous. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais il y a une marge entre se fréquenter et faire un culte ensemble. En mettant notre confiance en Jésus, nous n'aurons plus jamais faim ni soif d'une autre religion ou de quoi que ce soit. Jésus a dit de lui-même en Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Autre chose qui a changé aujourd'hui, le vieux prophète prétendait qu'un ange lui avait parlé de la part de Dieu. Il mentait. Il ne disait pas que Dieu lui avait parlé directement. Or, pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous parler et nous parle directement, pas par l'intermédiaire d'un ange. Aujourd'hui, Dieu nous parle directement par son Fils Jésus, la parole de Dieu incarné. Ce qu'il dit en Hébreux chapitre 1, verset 2, Hébreux 1, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il nous parle directement. On n'a pas besoin d'autre intermédiaire. Jésus nous parle directement. Oui, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et pour autant, pour nous chrétiens, jugement ne veut pas dire condamnation. Jésus a subi notre condamnation à notre place. Mais jugement veut plutôt dire qu'est-ce que nous avons fait de notre vie ici-bas depuis que nous connaissons le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait de notre temps? Qu'est-ce que nous avons fait de nos ressources? Quelles sont nos priorités ici? Jésus a encore dit en Matthieu 12, verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Par contre, seront condamnés tous ceux qui n'auront pas accepté le seul moyen d'être sauvés, c'est-à-dire Jésus. Jésus, il est le seul moyen d'être pardonné et d'être sauvé. Et ceux-là, clairement, ils seront condamnés. Ceux-là, clairement, qui ne se seront pas repentis, qui auront refusé le seul moyen d'être pardonnés, qui auront refusé Jésus, ils seront jugés, ils seront condamnés. Et Jéroboam fait partie de ce nombre. Voyons la suite du récit, la suite est fin pour aujourd'hui, de ce chapitre 13 et chapitre 13 et 14, fin du chapitre 13. Voyons les conséquences. Qu'est-ce qui est arrivé à Jéroboam ? Donc, et c'est mon quatrième point, le jugement annoncé contre tous ceux qui refusent la grâce de Dieu. Donc à partir du verset 33, chapitre 13, et je lirai jusqu'au chapitre 14, verset 20. Après cet événement, Jéroboam ne revint pas de sa mauvaise voie. Il établit de nouveau des sacrificateurs des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, tous ceux qui en avaient le désir. Il les consacrait sacrificateurs des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a disparu et qu'elle a été détruite de la surface du territoire. Chapitre 14. En ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit à sa femme, « Tu vas te lever et te déguiser pour qu'on ne reconnaisse pas que tu es la femme de Jéroboam. Tu iras à Silo. Voici qu'il y a là-bas le prophète Achija. C'est lui qui a dit de moi que je deviendrai roi de ce peuple. prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un pot de miel, entre chez lui, il t'annoncera ce qui arrivera au garçon. » La femme de Jéroboam fit ainsi, elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison de Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « Voici la femme de Jéroboam, elle arrive pour te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi cela? Tu te fais passer pour une autre. Je suis envoyé vers toi avec un message pénible. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi conducteur sur mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume à la maison de David et je te l'ai donné. Mais tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a gardé mes commandements et qui s'est rallié à moi de tout son cœur pour ne faire que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des idoles de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. C'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Jéroboam, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tu mettras le pied dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël prendra le deuil sur lui et l'ensevelira, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans une tombe, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira pour lui, sur Israël, un roi qui retranchera la famille de Jéroboam ce jour-là. N'est-ce pas déjà ce qui arrive ? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme un roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des poteaux d'Akéra en irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qui a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsa et comme elle atteignait le seuil de la maison, le garçon mourut. On l'ensevelit, et tout Israël prit le deuil sur lui, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Achija. Le reste des actes de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. La durée du règne de Jéroboam était de 22 ans. Il se coucha avec ses pères, et son fils Nadab régna à sa place. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Clairement, l'avertissement et de la parole de Dieu et la grâce dont a été l'objet Jéroboam n'ont servi à rien. Il persiste et il signe dans son idolâtrie et sa désobéissance. Alors puisqu'il persiste et il signe, Dieu va lui parler comment ? Par la maladie de son fils, Abija. Et donc le roi Jéroboam envoya sa femme déguisée auprès du prophète Achija. Et Achija, c'était lui qui lui avait parlé favorablement au moment où il lui avait dit qu'il hériterait les tribus du Nord, lorsque Dieu avait déchiré le royaume d'Israël. C'était Jéroboam à qui Dieu avait donné le royaume du Nord. Et là, le même prophète, Achija, lui avait parlé favorablement. Mais là, ça ne va pas être le même cas. Le déguisement de la femme de Jéroboam, à la demande de Jéroboam, montre qu'il n'y a aucune repentance ni humiliation, ni chez Jéroboam, ni chez sa femme, et ni l'un ni l'autre ne veulent désavouer leur culte idolâtre à Dan et à Bethel, alors qu'ils savent parfaitement où est le Dieu, le vrai Dieu et le vrai culte à Jérusalem. Mais peut-être pensaient-ils qu'en trompant le prophète, et on vient de voir qu'un prophète peut se tromper, l'homme de Dieu, peut-être pensaient-ils qu'en trompant le prophète, ils tromperaient aussi le vrai Dieu. Grave erreur. Le prophète a été averti par Dieu avant la venue de la femme de Jéroboam, et le prophète à qui Dieu a parlé, il démasque aussitôt la femme alors qu'il était aveugle, mais il sait parfaitement, Dieu lui a parlé. Et contrairement à ce que croyait Jéroboam, que le prophète lui parlerait de la même manière que la première fois, Eh bien non, cette fois, le prophète annonce cette fois un message dur et effrayant, le même prophète. Message dur et effrayant à sa femme, c'est-à-dire le jugement envers lui et sa maison, toute sa maison, et que sa dynastie serait anéantie, pas moins, à commencer par son fils, Abijah. Personne de sa famille ne serait enterré décemment, sauf son fils qui est malade. Pourquoi ? Parce que c'est le seul en qui se trouve quelque chose de bon. Alors là aussi, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas laissé vivre ? Eh bien, certainement que la mort valait mieux pour le jeune homme que de rester dans ce milieu aussi idolâtre, aussi hostile. Abijah, le prénom Abijah, donc le fils de Jéroboam, ça veut dire « l'Éternel est un père ». Et certainement que l'Éternel est le père que Abijah n'a pas eu, dont il avait besoin. Oui, effectivement, la parole de Dieu s'accomplit, la parole de l'Éternel s'accomplit, et elle s'accomplira encore, on le verra, c'est prévu dans la suite du livre. Dès que la femme rentre chez elle, l'enfant meurt. Ça sera le seul à être enterré selon la parole de l'Éternel, et tout Israël prend le deuil selon la parole de l'Éternel. Après 22 ans de règne, Jéroboam mourra, fin de son règne. Son fils Nadab régnera à sa place. Et la suite du livre des rois, du premier livre des rois, montre comment toute la maison de Jéroboam sera anéantie selon la parole de l'Éternel, qui s'accomplit et qui s'accomplira. Un texte qui peut nous paraître dur, mais qui est là pour nous exhorter à rester fidèles à Dieu et à sa parole. Il y a quelque chose que Dieu a en horreur, il s'agit de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsque on lui tourne le dos pour se tourner vers un faux Dieu qu'on s'est fabriqué. C'est clairement ce qu'a fait Jéroboam. Et le texte nous le dit, David n'a jamais été coupable d'idolâtrie. Il n'était pas parfait puisqu'il a commis quand même adultère. Mais nous savons que c'était un homme qui avait un cœur pour Dieu. La différence entre David et Jéroboam, c'est que lui ne s'est jamais tourné vers l'idolâtrie. Lui, David, il a reconnu son péché, il a confessé son péché. Ce qui n'a pas été le cas de Jéroboam. La cause de tous ces malheurs, il y a encore d'autres à venir dans le livre, eh bien, c'est d'avoir tourné le dos à l'Éternel. Et aussi d'avoir fait tomber le peuple de Dieu, ce qui est grave aussi. Je vais prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ces récits, Seigneur, parce que s'ils sont là, c'est pour nous rappeler à quel point tu es un Dieu saint. Merci parce qu'à la fois, Seigneur, tu nous laisses ta parole que tu nous demandes, Seigneur, de connaître, c'est vrai, pour pouvoir résister aux attaques de l'ennemi. Et Seigneur, ô combien nous avons besoin de toi. Alors nous te prions, Seigneur, que tu nous gardes de nous laisser entraîner dans des fausses doctrines. Tu sais comment le diable se déguise en ange de lumière, c'est toi-même qui nous préviens de ça. Seigneur, que notre oui soit oui, notre non soit non, quand nous avons un choix à faire. Que tu nous donnes des convictions, des bonnes convictions, et que tu nous donnes d'agir selon ces convictions, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir un cœur entier pour toi. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais Seigneur, tu nous pardonnes par ton Fils Jésus qui a porté nos péchés sur la croix. Et ce que tu veux, c'est un cœur entier pour toi. Nous te prions que nous soyons pleinement disposés, un cœur tout plein pour toi. Que tu nous aides à replacer les bonnes priorités dans nos vies, Seigneur, quand elles ne sont pas à la bonne place. Et que, Seigneur, que tu nous donnes vraiment cette joie de te connaître, Seigneur, quand on te met en premier, que tu es là, tu as dit que tu honoreras celui qui t'honore, Seigneur. Merci, Père, merci, parce que tu nous as donné ta parole et tu nous acceptes auprès du Père, en vertu de ton Fils, de son sacrifice. Seigneur, que nous fassions ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen.